Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes pour une première lecture. Et au chapitre 2, livre des Actes, chapitre 2 et verset 1. Il est dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Une deuxième lecture dans le premier livre des Rois, 1 Roi, chapitre 18, et verset 20. Nous lisons, Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou... » Il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois ». Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous avoir rapporter ça. Je crois que Dieu a fait beaucoup, beaucoup de choses depuis qu'il est Dieu, depuis que la terre a existé, et seulement ce qui nous est utile pour notre foi est rapporté dans la parole, je crois. Et tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre foi est dans la parole. Pas besoin d'aller chercher une inspiration ailleurs. Mais je crois qu'il aurait pu, si ça n'avait pas été utile, il aurait pu le mettre de côté, ne pas le raconter. Il a fait des miracles. Chaque jour, chaque moment de notre vie, nous pouvons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, les fois où il nous a aidés, gardés dans des situations désespérantes. Et on pourrait encore écrire des livres. Mais il y a la parole de Dieu, qui est tout à fait différente, qui garde les saintes écritures, tout ce qu'il nous faut savoir pour que notre foi soient vraiment solides, qu'elles tiennent et qu'elles grandissent de la bonne manière, normalement, et surtout en Dieu. Merci Seigneur pour ce récit. On a vu au début qu'il y a le feu qui est descendu en forme de langue sur les apôtres. Et là encore, le feu descend sur l'autel qu'Élie a préparé. Qui veut le feu dans sa vie? Qui a envie du Saint-Esprit dans sa vie, d'être rempli du Saint-Esprit? Moi, je veux être rempli du Seigneur, rempli de son Esprit, rempli de sa présence. Je voudrais que mon être soit comme le tabernacle à l'époque où il était construit, où la Shekinah, la présence de Dieu descendait dessus. Il y avait vraiment cette présence, ce lieu privilégié. Aujourd'hui, il est possible, cette relation privilégiée est possible dans chacun de nous. Il dit « Je répandrai de mon Esprit sur toute chair ». Tous ceux qui auront cru, la promesse est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont rachetés, qui font partie du peuple de Dieu. Vous pouvez avoir une relation directe avec le Seigneur. Non seulement avoir un contact de temps en temps, mais être rempli du Saint-Esprit. On voit depuis ces derniers temps, M. Gaud nous enseigne sur cette importance de vivre la vie de l'Esprit, de chercher la vie de l'Esprit. Pas simplement une date, un baptême un jour, mais une vie constante qui durera pour l'éternité, mais qui commence déjà ici-bas. Cette qualité de vie, la vie éternelle, la vie de l'Esprit. Je crois que un enfant de Dieu, tant qu'il ne vit pas la vie de l'Esprit, cette plénitude du Saint-Esprit, il n'est pas totalement épanoui. Il manque quelque chose. C'est comme si avant sa conversion, on lui avait présenté, le jour où il avait entendu l'Évangile pour la première fois, on lui avait présenté un beau palais. Vous voyez, un beau palais, plein de promesses, la guérison, la présence de Dieu, toutes sortes de choses. Et une fois qu'il rentre dans la conversion, qu'il se repent, qu'il se convertit avec le Seigneur, que Dieu le fait naître de nouveau, une fois qu'il rentre, c'est comme si très très vite il se retrouvait à l'étroit et frustré parce qu'il ne vit pas toutes les promesses qu'il avait lues dans la parole et qu'on lui avait annoncées. Bien des fois, on parle aux gens, aux nouvelles personnes, on leur dit tout ce qui est de bon côté. Quelquefois, on cache ce qui est mauvais ou ce qui est difficile, les épreuves. Parce que dans notre vie, on voit que si on n'a pas le secours du Saint-Esprit, très très vite on est lassé, très très vite on est fatigué. Peut-être certains d'entre vous disent « Mais je n'y arrive pas, je voudrais bien vivre ce que dit la parole, je voudrais plus de feu, plus de zèle dans ma vie, mais je n'y arrive pas. » Je crois que la solution est toujours la même, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment découvrir ce beau palais, cette plénitude, cette bénédiction que Dieu veut accorder à ses enfants, ces promesses qu'il a faites dans la parole, ces choses qu'il a dit que nous verrions, que nous vivrions, comment les vivre si ce n'est que par l'action du Saint-Esprit? Et comment alors recevoir ce Saint-Esprit? Comment recevoir ce feu? Non pas une date, comme je l'ai dit, peut-être que vous avez vécu une expérience, baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes mis à parler en langue, c'était magnifique, un jour, 10 jours, un mois, j'en sais rien, un an, mais aujourd'hui vous avez perdu ce feu. Et comment une église peut-elle être remplie du Saint-Esprit? Puisque c'est bien de recevoir la bénédiction individuellement, mais je crois que Dieu veut bénir son peuple, la famille de Dieu, l'ensemble, l'assemblée qui est là encore ce matin. Comment? On voit ce texte, deux attitudes, deux sortes de prophètes, deux catégories de personnes. Il y a une multitude de prophètes qui croient en Baal, une multitude de prophètes qui se trompent en fait. Ah, ils ont bien la loi, ils ont la loi et ils essayent de lui obéir, ils font bien un autel avec leurs moyens, mais il manque quelque chose. On va voir les défauts de ces prophètes. Où est-ce qu'ils se sont loupés? Où est-ce qu'ils se sont manqués? La première chose, ils s'adressent à Baal. Baal, ça veut dire possesseur. Ils s'adressent à Baal et ils font un holocauste à Baal. L'holocauste représente un sacrifice, c'est « je m'offre à Dieu ». Je m'offre à Dieu entièrement. Entièrement. Et ces prophètes s'offrent entièrement à leur Dieu, à Baal. Ils se trompent de Dieu. Ça, c'est la première chose. C'est certain que si on n'a pas la bonne personne, si on n'adore pas la bonne personne, si on ne veut pas suivre, on ne veut pas obéir à la bonne personne, on ne va pas être rempli du Saint-Esprit. On ne va pas avancer, on ne va pas être épanoui. Ils ont cette notion de sacrifice. Ils ont cette notion d'offrande, mais ils s'offrent à la mauvaise personne. La deuxième chose que je note, c'est que ils prennent la même victime qu'Élie. Il n'y a pas de différence dans la victime. Et quelquefois, nous-mêmes, On peut prêcher, on peut croire dans le nom de Jésus, mais on se trompe de Dieu. Aujourd'hui, on dit que le monde est de plus en plus athée. Moi, je pense l'inverse. Ils commencent à avoir tous la même religion. Elle s'appelle télé. Écran. Pour plus de précision. Écran. Des milliards de personnes passent plusieurs heures par jour devant leur écran. Soit une télé, soit un ordinateur, peu importe. Si c'était pour leur instruction, pour le travail seulement, ça serait bien. Mais combien de personnes qui disent croire en Jésus, avoir été sauvées, croire que Jésus est mort à la croix pour eux, qu'il a payé, qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus, lavés de leurs péchés, combien de personnes croyant cela, ayant le même sacrifice que Élie, puisque ce taureau représente Jésus à la base, c'est dans la loi, c'est Jésus qui s'est offert à la croix, sur le bois. Combien de personnes croyant ça passent plusieurs heures devant la télé pour trouver un peu de joie. Vous savez, quand on est triste, allez, je vais me mettre un film comique. Quand je suis mélancolique, ah, je vais mettre un film joyeux ou un film d'aventure pour me faire penser à autre chose. Quand toutes sortes de situations, on s'adapte, on trouve un programme qui nous plaît, ou alors on se distrait, voilà, on passe du temps, on veut penser à autre chose. Je ne suis pas contre quand c'est avec équilibre. Mais combien de personnes vont chercher leurs besoins, vont assouvir leurs besoins, essayer de le faire en tout cas devant la télé ou devant un écran, devant Internet, devant toutes sortes d'informations, toutes sortes de vidéos, toutes sortes de choses, des jeux, toutes sortes d'occupations qui ne sont pas celles de Dieu. Est-ce que ce n'est pas en tant qu'enfant de Dieu, devant le Seigneur, qu'on trouverait la joie, qu'on devrait trouver la joie? Est-ce que ce n'est pas devant le Seigneur, devant la face de Dieu, qu'on devrait trouver la paix, le réconfort, quelque chose, notre secours, ce dont on a besoin? Combien de fois, au lieu de passer du temps dans la prière pour que Dieu conduise nos pas, pour trouver un appartement, pour trouver un travail, pour qu'il nous guide, on ne se jette pas plutôt sur tous les sites où il y a toutes les références de données, et on va chercher, et on passe des heures, et il est 2h du matin. Mince, j'ai perdu du temps. Trop tard, je ne peux pas prier, je ne peux pas lire la Bible. Peut-être c'est, je dis ça, c'est, je me trompe, mais en tout cas quand je parle avec les jeunes, la plupart me disent ça. C'est qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Et que très vite, ils arrivent tard le soir. Et c'est trop tard pour lire la Bible. Ils sont fatigués parce qu'ils étaient préoccupés par des choses qu'ils avaient commencé devant leur écran. Que ce soit la télé, l'ordinateur, peu importe. Je crois qu'on tombe dans un autre Dieu. Et que certaines personnes se retrouvent possédées de cette chose. Possédées pendant le sens. Vous m'avez compris. Mais liées. Comme hypnotisé. Un jour, j'étais tout petit et je passe dans un rayon d'une grande surface et c'était le début des écrans plats, oui. Et la qualité d'image était tellement nette que j'en suis resté bête. Et il y avait une vidéo qui tournait en boucle et je suis resté comme ça. Et d'un coup, mes parents, ils avançaient, ils ont vu que j'étais resté bloqué. Et moi, j'étais comme ça. Et je regardais les détails passionnés, oui. Et mes parents commençaient à m'appeler Jérémy. J'étais là. Jérémy, tout bête comme ça. Jérémy. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ils m'ont regardé, ils ont entendu. Et puis au bout d'un moment, mon père a fait Jérémy. On comprend mieux d'un coup. Et là, hop, j'ai décroché. Mais comme hypnotisé. Je sais pas si vous avez vos enfants, quand on les met devant la télé, devant quelque chose, là, c'est dur de les en tirer. Hein. Des fois, même les ados, c'est des disputes pour les arracher à leur écran. Faisons attention. Aux images animées. Faisons attention. Ils se trompent de personne. Ils se trompent de Dieu. Ils s'offrent. Ils gardent pourtant des bons principes, la loi, la base. Jésus, le sacrifice, ça c'est bon, c'est acquis ça. Ils en veulent bien du salut. Un sauveur, c'est d'accord. Mais un Seigneur, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils se font souffrir. Vous avez vu comment ils font? Pour mériter l'approbation de leur Dieu, pour faire venir le feu, ils se mettent à sauter devant leur autel. Et ils sautent. Beaucoup d'activités, quelquefois, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas à se mettre dans les... Allez, on va dire physiquement, si je veux la présence de Dieu, si je veux mériter la gloire de Dieu, si je veux mériter de voir des choses de Dieu ou d'être rempli du Saint-Esprit, je vais m'activer. Ça ne sert à rien. C'est pas nos efforts physiques qui vont faire quoi que ce soit. Ils sont commencés à se mutiler, vous avez vu? Ils se sont fait des incisions, ils se sont coupés, au point que leur sang commence à couler dessus, comme si le sang de Jésus ne suffisait plus. Et aujourd'hui, on commence à, à partir dans ces choses-là. Le sang de Jésus, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus pour être lavé de ses péchés. Oui. Certains, moi j'étais dans certains cas amené où des gens me parlaient, ils m'ont dit oui, mais je suis oppressé vraiment. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais embêté. Et moi, une sœur m'a conseillé d'écrire tous mes malheurs, tous mes péchés sur un papier et de le brûler. Comme ça, j'allais en être délivré. Comme si le sang ne suffisait plus, le sang de Jésus, la foi, ça ne suffisait plus. Ils ont commencé toutes sortes de choses quand on commence à méditer par nos prières. Est-ce qu'ils n'ont pas prié? Ils ont prié, ils ont prié leur Dieu. Oh, réponds-nous, rien du tout. Aucune réponse. Longtemps, ils ont prié. Est-ce que c'est nos prières qui vont nous faire mériter la plénitude du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit? Pas du tout. Qu'est-ce qui va nous faire rentrer dans cette vie de l'Esprit? C'est pas nos efforts, c'est pas le nombre d'heures dans la prière. C'est même pas le jeûne et prière. Un jour, j'étais là, je devais apporter un message et je voulais la pensée de Dieu. Alors, pensez donc, je me suis mis à genoux du matin très tôt, et à genoux, et puis je commençais à prier, et puis rien, j'avais rien sur mon cœur, rien, aucune conviction quant à la pensée de Dieu. Et arrive le repas du midi, et je me suis dit, tiens, Jérémie, j'ai compris. C'est quand tu vas jeûner que tu vas avoir la pensée. En jeûnant, le Seigneur ne va pas pouvoir faire autrement que de te donner la pensée de Dieu. Et j'ai commencé à jeûner. J'ai dit à Stéphanie, non, désolé, je ne mange pas. Je vais jeûner. Et puis je commence, et d'un coup, une pensée. Tu crois mériter quelque chose de Dieu par tes efforts? Même par le jeûne, tu crois mériter quelque chose par le jeûne? Oh! Je dis, bon, Stéphanie, je reviens. J'arrive. J'ai demandé d'abord pardon au Seigneur. Je suis allé manger. Juste après, je me suis remis en prière. J'ai lu la parole. Et quelque chose est venu et ça a confirmé. Quelqu'un était de passage à ce moment-là, ce soir-là. Quelqu'un passait pour faire un pèlerinage. Il était en pèlerinage et il s'est couché devant l'église pour passer la nuit. Et il y a eu la réunion. Il est rentré. Il a pu entendre la bonne nouvelle. Et moi, sans le savoir, je ne savais pas qui c'était. C'est pas moi qui l'ai fait rentrer. Je l'avais même pas vu. Je lui dis, voilà, quelques-uns font des pèlerinages, etc. Et ça correspond exactement. Il a été frappé. Merci Seigneur, je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère que le Seigneur a trouvé son cœur et surtout que lui l'a laissé agir à l'intérieur. Oui, toutes sortes de choses, les souffrances. Combien de fois on veut mériter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu? Le sang ne suffit plus. On rajoute le nôtre. Dernièrement, un jeune me disait, j'ai mangé trop. J'ai mangé que 2 assiettes de pâtes. Et j'ai culpabilisé. Du coup, je me suis dit, il faut que je jeûne, je crois, 10 jours. Pour faire pénitence. Comme si nos souffrances allaient rajouter quelque chose. Jésus a suffisamment souffert. Et toutes nos souffrances ne rajouteraient rien du tout. Rien du tout, puisque nous ne sommes pas parfaits. Comme lui, il l'est. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Puisqu'il y a les 450 prophètes, mais qu'est-ce qu'il a fait Élie, qui était tout seul? Tout seul. D'ailleurs, je note une chose. La première chose, il n'a pas suivi tout le monde. Lui, il a choisi d'obéir à Dieu, d'obéir à Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Il va dire plus loin que tout ce qu'il a fait, il l'a fait d'après la parole de Dieu. Sur ta parole, disait quelqu'un. Que t'importe, Jean, disait Jésus à Pierre, que t'importe ce que je ferai avec lui, ce qu'il deviendra. Toi, suis-moi. Et de nos jours, il est important, chacun, tous, même si on est dans la meilleure assemblée, Saint-Anne, même si on était dans la meilleure assemblée, personnellement, il nous faut être convaincus, soi-même, des choses de la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre quelqu'un, croire ce qu'on nous dit. Avec M. Ollé insiste sur ce fait qu'il nous faut chercher personnellement à connaître la parole de Dieu, à s'en nourrir personnellement. Bien sûr, nous qui avons une responsabilité quelconque, mais je crois que viendra un temps où la majorité des gens se tromperont. C'est pas nouveau. Mais même dans les assemblées, même dans nos églises, qui sait si je ne me trompe pas? Qui sait si vous ne vérifiez pas vous-même, si ce qu'on vous dit est conforme à la parole de Dieu? Et ça, il ne faut pas suivre le mouvement, suivre la foule. Il faut suivre Jésus. Il faut suivre sa parole. Et lui, il a choisi d'obéir à Dieu. Non, je n'irai pas vers d'autres dieux. Moi, je me tiendrai devant la face de Dieu. C'est ce qu'il fait. Et on voit que cet homme a été approuvé de Dieu. Première chose qu'il fait, on le voit au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approche. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait un autre autel? Non. Il rétablit l'autel renversé. Il rétablit l'autel renversé. Combien de personnes disent, moi, il me faut une autre église? Si j'allais dans une autre église, un autre contexte, sûrement que ça irait beaucoup mieux. Non. Il n'invente pas une nouvelle manière de servir Dieu non plus. Non. Je crois que le problème, ce n'est pas dans la manière de servir la parole de Dieu, qu'il faut trouver des nouvelles solutions, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Ce qu'il faut surtout, c'est rétablir l'autel. Retourner nos cœurs, que nos cœurs retournent à Dieu. Vraiment ça. Nos cœurs retournent à Dieu. Et je crois que pour que nos cœurs retournent à Dieu, il faut abandonner certaines choses. Il faut abandonner. Il faut renoncer à d'autres choses qui nous sont proposées. Les autres ont fait un autel quelconque. Lui, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Le seul qui puisse recevoir l'approbation de Dieu. Il a rétabli cet autel. On cherche souvent la bonne église. Le bon pasteur. On cherche souvent les bons frères et les bons frères et sœurs, ceux qui ne nous embêtent pas trop. Dès qu'il y a une difficulté, il n'y a pas d'amour, je pars. Ou toutes sortes de choses, on peut trouver toutes sortes de raisons. Moi, je n'arrive pas à m'épanouir avec le Seigneur parce que je ne suis pas dans le bon contexte. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu ou personnes qui vous servent, on souhaiterait que tout se passe à merveille, qu'il n'y ait aucun souci. C'est pas vrai? On serait tous les plus heureux du monde. Mais je crois que Dieu, non. Il veut qu'on compte sur lui, qu'importe les difficultés. Quand on se donne au Seigneur, bien sûr, il y a des bonnes nouvelles. Le Seigneur nous protège, il nous garde, il va nous bénir, il peut guérir, il peut sauver, il peut garder. Mais je crois qu'aussi, même dans les difficultés, et il y en aura sûrement, on va voir juste après pourquoi il y a des difficultés, le Seigneur est là. Ce qu'il a promis, c'est qu'il serait toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il rétablit l'autel avec 12 pierres. Première chose qu'il fait, il nous est précisé ici qu'il prend 12 pierres. Ça représente les tribus. Et je crois qu'il nous faut, il nous est parlé ici aussi d'unité. Il nous faut être dans l'unité. Si jamais il n'y avait qu'une partie, que quelques-uns dans l'assemblée, qui voulaient voir la gloire de Dieu, qui voudraient vivre dans la vie de l'Esprit, et que tout le reste, des personnes, toutes les autres personnes ne voulaient pas, s'il n'y avait pas d'unité, celle que donne le Saint-Esprit, c'est pas nous qui la créons. Mais s'il n'y a pas d'unité dans nos cœurs, nous pouvons rentrer dans la vie de l'Esprit. Dieu veut qu'on arrive à marcher ensemble, dans une même direction. Sinon, seuls ceux qui veulent vont être bénis, mais personnellement. Ils vont vivre ces choses personnellement. Je crois que quand même Dieu, il bénit personnellement. Il prend soin personnellement. Mais si on veut vraiment que notre assemblée soit comme cet autel, approuvé de Dieu, où le feu descend, il nous faut être unis, tous ensemble. Unité. Éphésiens, prenez avec moi. Éphésiens chapitre 4. Et verset 3. Verset 1 plutôt. Il dit ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la repentance, de la vocation, pardon, qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » L'unité de l'Esprit. Dieu nous a sauvés par un seul et même Esprit. Dieu nous a rachetés par un seul et seul Seigneur. Dieu nous remplit d'un seul et même esprit, ce qui va nous aider à être unis. Unis. Et si déjà on a reçu une portion de l'esprit lorsque nous avons été sauvés, rachetés, Dieu veut nous remplir tous ensemble. Mais pour que ce soit approuvé, il faut qu'on soit ensemble assoiffés de cette présence de Dieu, de cette onction divine. Il nous faut être ensemble. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça que Dieu veut. Conserver. Il y est déjà, normalement, le lien d'esprit. Il y est déjà l'unité d'esprit. Il y est déjà. Il suffit de la conserver. Je réalise avec Dieu qu'on n'a rien à inventer, rien à faire par nos propres forces, ou à découvrir tout seul comme ça, qui n'ait jamais été découvert. Tout est là dans la parole. Il nous faut conserver. Conserver ce que Dieu nous a donné et veut encore nous donner. Deuxième chose, et je crois que vraiment le centre de ce partage, c'est vraiment l'unité. Être un. Être un, tous ensemble. Comme, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si toute l'Assemblée, chacun d'entre nous, on serait tous motivés, déterminés, prêts à réclamer, à se tenir devant Dieu pour avoir le Saint-Esprit qui descende sur l'Assemblée. Je ne sais pas combien on est ce matin. Plus de 200. Mais si tous, personnellement, lorsqu'on est à l'Assemblée, individuellement à la maison, on réclame la présence de Dieu, on se tient devant Dieu, je crois que Dieu ne peut faire autre chose que de bénir une assemblée qui a soif et qui obéit. Les 12 noms, je les ai pris dans Apocalypse chapitre 7, verset 4. 12 noms des tribus. J'aimerais voir un petit peu ce qu'il nous révèle. Dans quoi nous pouvons bien faire, nous efforcer pour garder l'unité de l'esprit. La première chose, le premier cité, aidez-moi, Apocalypse 7, 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Judas. Qui sait ce que ça veut dire, Judas? C'est louange. Louange. J'aime pas demander des choses, j'aime pas. Mais je crois que je dois vous encourager, en tout cas, à élever votre voix, tous ensemble. Que lorsque nous nous unissons dans un même lieu, que tout le monde loue le Seigneur, que tout le monde chante, que tout le monde prie, à la manière dont il y arrive, avec ses faibles mots, peu importe, mais d'un même cœur. Si on prie courtement, je crois qu'on peut arriver à être beaucoup, à élever la voix, tous. Et si c'est pas là, c'est la voix d'après, mais que vraiment on remporte cette victoire. Moi, personnellement, la première fois que j'ai élevé la voix dans une assemblée, j'avais 4 ans, mes parents m'ont autorisé, et la deuxième fois, j'avais entre 10 et 12 ans. Et je voulais remercier Dieu. Dans mon cœur, j'avais cette joie. Je voulais élever la voix, dire dans l'église, quoi. Devant tout le monde. Il y avait une centaine de personnes. Et je voulais, j'avais à cœur, mais j'avais peur. J'avais peur. Et j'hésitais. Je voulais. Et dimanche après-midi, dimanche, je passais à côté. J'avais une soif d'ouvrir ma bouche avec mes frères et mes sœurs, de participer à la louange. Mais j'avais une crainte. Et puis j'ai eu du mal. Et puis à ma sœur, je lui disais, elle a 2 ans et demi de moins que moi. Donc elle réalisait moins, 8 ans, ce que c'est que l'impression de la foule. Je dis, écoute, est-ce que tu as envie de louer Dieu? Est-ce que tu as envie de prier? Elle me dit, oui. Je dis, pourquoi tu le fais pas? Et elle m'a dit, je sais pas. Je dis, ben alors, tu le feras, et comme ça, moi, après toi, je le ferai. D'accord? Elle m'a dit, d'accord. Et ça m'a aidé. Parce que je savais, c'est ma soeur, je la connais, je savais quand elle allait terminer, vous voyez. J'attendais le mot. Vous êtes peut-être un peu comme moi. Vous voulez, mais vous n'osez pas. Remportez la victoire. Il y a une joie, non pas de l'orgueil. Il ne faut pas que ce soit de l'orgueil non plus. Ni pour satisfaire, vous voyez, j'ai prié. Mais simplement la joie d'avoir participé ensemble, être unis pour louer le Seigneur. Ruben, le deuxième. Que veut dire Ruben? Je veux vraiment aller vite, là, ça prend du temps. Voici un fils. Est-ce qu'on réalise qu'on est tous des fils et des filles du Seigneur? Est-ce qu'on réalise qu'on est la famille de Dieu? Ça va m'aider pour respecter l'autre. Bien que je dois aimer le monde entier, etc., si dans l'assemblée, comme dans toute famille, il y a des frictions, je réalise quand même, c'est un enfant de Dieu. Je n'ai pas à le juger, je n'ai pas à le pointer, j'ai à l'aider, à le supporter. C'est marqué, c'est pas moi qui l'ai dit. À le supporter, à l'aider, l'encourager, à veiller sur lui. Veiller sur lui. Comme une famille, unie, soudée. Voilà, ensemble, on réalise qu'on est des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Gad veut dire heureux en troupe, heureux ensemble. Est-ce que vous avez de la joie à vous rassembler dans ce lieu? Est-ce que vous êtes heureux lorsque vous êtes ensemble dans la communion fraternelle? Moi, je suis heureux. Et je crois qu'il y a vraiment une joie dans la communion. C'est une des choses dans lesquelles il persévérait dès le début de l'assemblée. La communion fraternelle. Qu'on ait tous de la joie à se rassembler. Qu'on ait la joie, ne laissons pas les choses de la vie, les soucis, bien les petites querelles qu'on a entre nous, nous diviser, nous séparer, nous attrister, nous faire avoir un fardeau lorsqu'on rentre dans l'assemblée. C'est pas ça l'église, c'est pas ça les réunions que Dieu veut. C'est une réunion où on vient heureux de se rassembler dans le nom du Seigneur Jésus. Azer, c'est heureux, mais tout seul, heureux. Heureux dans l'intimité, heureux de prier pour mes frères et sœurs, c'est pas vrai? Heureux de penser à eux, heureux dans la présence de Dieu, mais pour garder l'unité, heureux de prier pour que Dieu m'aide à supporter, heureux, tout simplement, heureux. Mais dans cette optique, heureux ensemble, heureux dans la communion, mais heureux à la maison, je pense aussi à ma famille. Et je remercie le Seigneur pour ma famille, pour la famille qu'il m'a donnée. Nephtali, la lutte, est-ce que ce n'est pas un effort qu'il faut faire pour conserver l'unité de l'esprit? C'est dit, efforcez-vous, faites, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Des fois, c'est une lutte, parce qu'il y en a un qui veut mettre la division, il y en a un qui veut mettre la cisanie. Et nous devons lutter, non dire, je ne veux pas lutter contre mon frère et ma soeur, mais lutter contre toutes ces pensées qui me viennent, qui me découragent, toutes ces situations qui m'attristent, peut-être. Le lutter, non, je n'accepterai pas d'ouvrir une brèche dans la maison de Dieu. Je n'accepterai pas. On est tous comme une chaîne. Ensemble, on forme une chaîne. Mais s'il y a un maillon qui est affaibli, un maillon qui sert, la chaîne est rompue. Et moi, quand je vois ce qui s'est passé à Haï, pour une famille qui a des ABI, 36 sont morts, il me semble, et là, tout le monde a perdu la bataille. Il a fallu d'abord régler l'affaire. Je ne comprends peut-être pas tout ce texte, mais je crois que ça nous rappelle qu'on doit être tous ensemble. Et qu'il faut surtout que les uns et les autres réalisent notre responsabilité personnelle pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Et si dans l'assemblée, il y avait quelque chose de mauvais, comme l'inceste qu'on voit dans les épîtres, ou autre chose, des disputes des choses, le Seigneur ne pourra pas bénir l'assemblée dans son ensemble. Et où est-ce qu'il va envoyer les gens nouveaux? À un endroit où les gens se disputent, où sont divisés, où il y a le péché qui court sans que personne ne dise rien, ou est-ce qu'il va envoyer les gens là où on le respecte, là où on a la crainte de Dieu? Je crois que c'est plutôt là. Manassé, qui oublie? Soyons prêts à oublier toutes les mauvaises choses. Soyons prêts à oublier les divisions. Hein, dans Proverbe, chapitre 17, verset 7, j'avais pris un texte pour chaque prénom, mais je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Proverbe 17. Pardon. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Divise les amis. On ne veut pas rappeler la faute du voisin. On ne veut pas rappeler. On veut se rappeler que Jésus nous a pardonné toutes nos fautes. Et que nous aussi, nous avons la capacité maintenant de pardonner. À notre tour. Pardonner. Manassé qui oublie. Gloire à Dieu. Siméon. Siméon, c'est qui entend. Sommes-nous prêts à nous entendre les uns les autres lorsque ça ne va pas? Sommes-nous une oreille qui est prête à écouter mon voisin, mon frère, ma soeur, lorsqu'elle est dans un moment fatiguée, affaiblie? Sommes-nous prêts à écouter les nouveaux qui ont besoin de conseils? Sommes-nous prêts à entendre et à comprendre ceux qui passent par des moments difficiles, ou préférons-nous les juger, ou les laisser de côté, les mépriser? Sommes-nous concernés par le sort de chacun des enfants de Dieu qui sont présents, et qui sont membres, ou qui sont en tout cas parmi nous? Est-ce qu'on est prêt à entendre, avoir une oreille attentive? Est-ce qu'on est prêt à entendre, peut-être, les reproches, les remarques? Des choses qui ne sont pas forcément agréables à écouter, mais est-ce qu'on est prêt à s'entendre pour garder de l'unité et à comprendre que, de toute manière, il nous faut avancer pour la gloire de Dieu? Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Si un ami nous blesse, allons le voir, si peut-être il n'a pas fait exprès. Disons-lui, voilà, j'étais blessé par ta parole, par ton action, par tes reproches peut-être, tu n'as pas su mettre les mots. Mais j'accepte de te pardonner de toute manière, parce que moi j'ai été pardonné. Sache que l'affaire est réglée, mais j'avais besoin de te le dire, pour pas que ça crée de rancune en moi. En tout cas, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Je crois que ça plaira à Dieu, ça. Lévi, joint. Quand on fait une jointure, qu'on soit tous conscients que on peut être des joints qui évitent que l'air passe, qui évitent que l'humidité passe, rentre et fasse rentrer la moisissure, la maladie. Joint, qui arrive à joindre les pierres entre elles. Sommes-nous des personnes qui procurent la paix? Procurer la paix. Ou est-ce qu'on est chacun de son côté? Peut-être assemblés les uns sur les autres, mais pas joints ensemble. Je crois que le Seigneur veut qu'on ait des jointures, les liens de la paix, qu'on soit joints ensemble. C'est dans Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Et vous lire la suite. Issachar, salaire. Est-ce que l'Assemblée est unie pour réclamer comme salaire à Dieu des âmes? Des âmes. Comme joie. Moi, j'ai... Seigneur, je ne veux pas courir après les bénédictions. Je ne veux pas courir après du confort. Même pas après le chauffage. Seigneur, ce après quoi je veux courir surtout, c'est après les âmes qui sont perdues. Est-ce qu'on est unis tous ensemble? Est-ce qu'on a la même vision? Ce même désir de voir des hommes, des femmes, et bien, se tourner vers le Seigneur et être sauvés. Hier, avec Agape Mosaïque, on sortait, et on a eu la surprise, avec la maman Fabienne, on a eu la surprise de tomber sur un homme qui avait connu Maria. Vous avez vu cette femme qui est venue que quelques mois, qui était trouvée devant l'assemblée. Elle a trouvé l'église, elle est morte quelques mois après de son cancer. Et moi, quand je suis arrivé à l'assemblée, elle allait partir dans les mains du Seigneur, on en est sûr. Elle allait partir quelques semaines après, et j'ai été là le jour de son enterrement. Mais je ne l'ai pas connue, cette dame, juste j'ai entendu son prénom. Et à force de parler, alors qu'il nous offrait le café, etc., on parlait, cette personne ne la connaissait pas, on faisait du porte-à-porte. On parle, et il me dit, mais Neuf-Rivières, je connaissais quelqu'un. J'ai connu quelqu'un qui y est allé. Ah bon ? Il dit, elle est décédée il y a 2 ans. De suite, j'ai pensé à cette personne, il dit, tiens, ça fait 1 an et demi à peu près. J'ai dit, est-ce que vous vous souvenez du prénom ? Moi, je m'en souviens plus. Et puis il me dit, oui, ça s'appelle Maria. Maria. Il en a pu parler, etc. C'était un tremplin pour nous, déjà, pour être sûr que le Seigneur le cherchait. Et même pour lui, pour se poser des questions, quand même. Parce que le monde, on nous dit, il est petit, mais quand même, c'est un sacré hasard. Je ne crois pas au hasard. Hein. C'est le hasard de Dieu, on va dire. Ça, c'est une coïncidence, conduite de Dieu. Est-ce qu'on a le même désir de voir les hommes, les âmes, se tourner vers le Seigneur et de les avoir pour salaire ? Je l'espère. Zabulon, une habitation. Habitation. Zabulon, que le Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous, qu'il soit libre au milieu de nous et surtout pas attristé en nous, en chacun de nous, mais au milieu de nous, dans nos rassemblements. Que le Saint-Esprit ait toute la liberté de s'exprimer, d'agir au milieu de nous. Une habitation. Est-ce qu'il fait bon vivre parmi nous pour le Seigneur ? C'est peut-être une image qui est simplement utile pour nous faire comprendre quelque chose, mais est-ce que le Seigneur peut agir ? Est-ce qu'il est le maître par son esprit au milieu de nous ? Est-ce qu'on est une habitation forte, avec des solides fondements, comme cette Jérusalem céleste dont on nous a parlé tout à l'heure ? Joseph, il ajoutera. Ça, c'est la promesse. Si on a le désir de voir des âmes, le salaire, le Seigneur nous fait cette promesse à nous, de voir des âmes s'ajouter au milieu de nous. Et croyons que c'est le Seigneur qui ajoute, il ajoutera. Moi, je n'ajoute personne, je ne convertis personne. La seule chose que je peux faire, c'est annoncer, témoigner. C'est tout. Mais les gens sont libres de choisir, d'accepter ou de refuser. Benjamin, fils de ma droite, fils de ma droite. Et là, je me suis dit, veillons les uns sur les autres, pour que personne ne soit mis du côté des boucs, à gauche, le jour où le Seigneur reviendra. Le plus important, même si vous avez bien commencé, c'est de bien finir. Ça serait dommage d'avoir bien commencé et de mal finir, de tomber du côté des méchants. Il est dit, c'est dans Matthieu 25, verset 33, que Dieu séparera d'un côté à sa gauche les boucs, à sa droite les brebis. Aux uns, il dira « rentrez », aux autres, il dira « je ne vous connais pas », et il les emmènera dans les temps de feu, il nous est parlé, en enfer. Puissions-nous être trouvés toujours les fils de sa droite, à droite, du côté droit. Sûrement des choses que je n'ai pas bien compris dans tout ça, qui me manquent beaucoup de révélations, et je crois que la parole de Dieu est riche, mais que ça puisse nous servir à comprendre que Dieu veut qu'on soit dans l'unité, tous unis. Troisième chose, il fait un fossé. On en a fini avec les 12 ans, mais il fait un fossé autour de cet autel. Et je crois qu'il nous faut mettre une distance entre nous et certaines choses. Dieu nous parle de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il nous faut nous mettre à part. L'Église, le nom Église ecclésia veut dire appeler hors d'eux. Hors d'eux. Nous devons mettre un fossé entre nous et certaines choses. Ne jamais les traverser. Il faut nous séparer de certaines choses, renoncer, mettre de la distance. Quatrième chose, il arrange le bois, il coupe le taureau. Que toujours on ait à l'esprit que la seule chose qui peut être approuvée, c'est ce qui est basé sur ce sacrifice de Jésus à la croix. Non seulement pour notre rachat, mais aussi un symbole de consécration, d'offrande à Dieu. Je crois que ce sacrifice de l'Holocauste, c'est je m'offre entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Je me consacre à Dieu, pas à Baal. À Dieu. Je me consacre. Est-ce qu'on comprend ce mot consécration ? Moi-même, j'ai besoin de le comprendre toujours plus. J'ai besoin que le Seigneur me montre et qu'il me gratte dans mon cœur. Jérémie, consacre-toi à l'Éternel. Ne perds pas du temps. Ne te laisse pas distraire par les choses qui te sont proposées, que tu as, qui sont peut-être bonnes, comme ce grain de blé dont il nous a été parlé dernièrement, mais qui doit quand même aller sous terre, mourir. Consacre-toi. Consacre-toi. Oui, ce taureau, c'est Jésus à la croix. Mais c'est aussi maintenant notre, nous-mêmes, nous nous offrons. Et nous portons notre croix. Ce bois qui représente la croix, nous aussi on a apporté notre croix à mourir à nous-mêmes. Et cinquièmement, il fallait remplir d'eau. Il demande aux autres de remplir d'eau. On a cet exemple, l'eau de la parole. L'eau, c'est la parole de Dieu. Je crois que cette eau-là, ce n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole, la calomnie, peut-être les critiques, la raillerie, ou peut-être l'élévation des compliments. Toute cette eau qui était censée atténuer, empêcher l'approbation de Dieu. Toute cette eau qui est là. L'eau et le feu, ça ne va pas ensemble. Et certaines fois, l'eau qui est jetée sur nous, c'est des critiques et ça décourage certains. Ils n'ont pas compris qu'il faut se préparer à être mis de côté, à être rejeté comme Jésus l'a été. C'est un enseignement de la parole, ça aussi. Être prêt à être persécuté. Et encore, ça n'a rien à voir avec la persécution de certains. Mais être mis de côté, rejeté du monde. Cette eau aussi, qui peut représenter toutes sortes de compliments, mais qui peuvent nous piéger aussi. Nous emmener vers l'orgueil. L'orgueil va nous empêcher d'être baptisé de feu, enfin baptisé dans le Saint-Esprit en tout cas, d'être rempli du Saint-Esprit. Cette eau présente deux pièges, le découragement et l'orgueil. Les deux sont mauvais. Il ne faut surtout pas laisser ces choses grandir en nous. Peut-être êtes-vous comme passé par ces choses-là, comme moi, le découragement. Vous sentir incapable. À la limite, il faut rester comme ça. Il ne faut pas se sentir pour comme étant quelqu'un qui peut faire quelque chose de lui-même. Sans le feu, l'eau n'aurait jamais disparu. Ce découragement n'aurait jamais disparu. Sans le feu, l'orgueil n'aurait jamais disparu. Des moments d'orgueil, on en a sûrement aussi. J'en ai, moi, le premier, il faut m'aider. Il faut que le Seigneur y m'aide. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il nous protège du découragement. Il nous rassure, il nous encourage, il nous fortifie. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, disait-il, Paul, à Timothée. Et à la fois, l'orgueil. Dieu a permis à Paul d'avoir une écharpe dans sa chair, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Que Dieu nous garde de ces deux choses. C'est normal que ces choses arrivent. Mais il faut que le Saint-Esprit puisse venir en nous, et toute la liberté, parce que nous aurons soif de venir en nous pour faire évaporer toutes ces choses, disparaître toutes ces choses. Que toute calomnie ou tout compliment qui pourrait nous faire tomber dans un piège s'évapore immédiatement, disparaisse de nos pensées. Et qu'il ne trouve pas une porte ouverte pour créer quelque chose en nous qui fera que Dieu ne pourra pas approuver. Que vite on dépose ces choses au pied du Seigneur. Tu vois ce qui commence à être dans mes pensées. Délivre-moi, aide-moi à ne plus penser. Je me rappelle de toi sur la croix. C'est toi, de toi dont j'ai besoin. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui me sauve, c'est toi qui me garde, c'est toi qui me protège, c'est toi qui m'as fait des promesses, c'est toi qui me prépare une place. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et si on a dit que la prière ne mérite pas les choses de Dieu, l'approbation de Dieu, elle est tout de même indispensable. Et on voit qu'Élie a dû prier. Élie a dû faire monter une prière à Dieu pour que cet holocauste, cet autel soit agréé de Dieu, cette offrande soit agréée de Dieu. La prière, elle ne fait pas l'onction, mais je crois que dans les moments de prière, Dieu nous parle, Dieu nous fortifie, Dieu nous conduit près de lui. Il nous faut la prière. Ne la négligeons pas. Que ce feu qui a été ce témoignage de l'approbation de Dieu, de la vérité de l'existence de Dieu, c'est aussi la puissance qui nous permet d'être des témoins personnels. Comme une marque sur notre front, invisible, la marque de Dieu, la marque du Saint-Esprit, les arts du Saint-Esprit, pour déjà nous mettre de côté pour que nous soyons des témoins efficaces, que la vie de l'Esprit puisse se manifester au milieu de nous. Une chose à retenir, vraiment, impérativement, Dieu nous demande d'être unis, de marcher ensemble, au pas du troupeau, au pas du troupeau. Chacun de son côté, je ne crois pas que ce soit de Dieu. Dieu a un désir, c'est de nous emmener ensemble au paradis avec lui, jusqu'au bout. Et on a besoin les uns des autres. On ne peut pas dire j'ai pas besoin du pied, j'ai pas besoin du nez, j'ai pas besoin de l'oreille. On est tous indispensables les uns des autres. Du moment qu'on reste à notre place, bien sûr, et qu'on ne perd pas la communion avec Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, tu vois cet enseignement, Seigneur, ce partage que j'ai voulu faire, que j'ai eu à cœur. Seigneur, que tu m'as donné, j'en suis certain. Avec mes défauts, Seigneur, avec mes faiblesses, je l'apporte, Seigneur, néanmoins avec l'assurance que ton Saint-Esprit saura appuyer ce qui vient de toi et ce qui sera utile à notre édification, Seigneur. Nous voulons ta présence, nous voulons ton Saint-Esprit sur nous, en nous, au milieu de nous, l'action de ton Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la vie de l'esprit. Nous voulons voir ces choses. Nous voulons la joie, la paix, toutes ces choses que tu promets, que tu veux utiliser pour rendre témoignage au monde, pour approuver que tu es le Dieu qu'il faut suivre, que tu es le Seigneur Jésus, qui est celui qui sauve, le seul nom qui nous a été donné. Alors s'il te plaît, Seigneur, fais-nous la grâce de grandir avec toi et de prendre ces choses, Seigneur, et de nous les approprier, de les faire notre et de grandir tous ensemble, Seigneur, pour ta gloire. Amen.